Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Forum du Studio Kalangou que vous recevez à travers les ondes de nos radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le thème du forum s'articule autour de comment renforcer la confiance entre forces de défense et de sécurité et population civile dans un contexte d'insécurité tout en respectant la protection et la promotion des droits humains. La question du respect des droits humains fait couler beaucoup d'encre dans le monde. L'Afrique subsaharienne fait face à l'insécurité avec l'implantation des groupes armés non étatiques. Face à cette multiplication des violences au Niger, dans certaines parties du pays, les services de l'État sont fragilisés ou absents. L'accès à l'éducation, la santé, l'alimentation et bien d'autres domaines n'est pas facile pour les populations qui sont souvent obligées de se déplacer. Et cette situation renvoie à la question des droits humains. Alors, quel est aujourd'hui l'état des lieux de la sécurité au Niger ? Comment se portent les droits des populations dans les zones de conflit au Niger ? Quelle analyse faites-vous des relations entre forces de défense et de sécurité et les populations dans un contexte d'insécurité ? Est-ce que les droits humains sont respectés pour et par les populations eux-mêmes ? Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nos invités vont tenter d'apporter des réponses. Nous avons dans ce studio M. Arimi Abba, journaliste à Alternative Espace Citoyen, et en compagnie de M. Hamadou Ali Boubacar, responsable département démocratie et bonne gouvernance dans le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Je suis Rafika Taher pour la présentation. Depuis 2015, les attaques des groupes armés non étatiques se sont multipliées au Niger avec des exactions sur les populations civiles, sur l'armée et les installations de l'État dans les régions de Tillabéri, Tawa, Diffa et Maradi, faisant de multiples victimes, des morts, des enlèvements, des extorsions régulières, en particulier les éleveurs nomades qui sont sommés de payer un impôt, la zakat, des écoles incendiées et des infrastructures pillées ou détruites, etc. Nous allons commencer par vous, M. Arimi. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de la sécurité au Niger ?
Je dirais, vous avez parlé de Diffa, Maradi, Tawa, Tillabéri. C'est les zones qui sont concernées par vraiment l'insécurité. Aujourd'hui, on sait qu'à Tillabéri, vraiment, c'est plus chaud qu'ailleurs et à Maradi aussi. En tout cas, ces derniers temps, surtout avec les enlèvements, les attaques des villages, des enfants, des femmes qui sont enlevées. À Diffa, il y a 2 semaines, on parlait même de recrudescence des attaques dans des zones inhabituelles, notamment entre Diffa et Mayenne, donc un peu plus à l'ouest que d'habitude. Mais c'est un peu plus calme ces derniers temps, et donc c'est une très bonne chose. Tillabéri aussi. On peut dire ces derniers temps vraiment que c'est relativement calme sur le territoire national. Peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Et quand on n'a pas l'information, c'est que certainement ce n'est pas aussi grave que d'habitude. Maradi, ça se poursuit. Et ça, c'est surtout des actes de banditisme. Parce que jusque-là, il n'y a en réalité pas de groupe armé qui se réclame. Mais c'est des groupes qui font des raptes, qui enlèvent des enfants, moyennant rançon, des trucs comme ça. Quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Tawa et Tillabéri, c'est généralement les attaques en provenance des pays voisins, notamment le Mali, ou la zone des trois frontières, comme on dit. Quoi. Donc voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Mais toujours est-il dit que notre pays, vraiment, et tiraillé de toutes parts vraiment par rapport à cette insécurité-là.
D'accord, M. Arimi. M. Hamadou, dites-nous quel est le rôle du REPAD dans la sécurité de la population civile?
Merci, madame. Et le rôle du REPAD par rapport à la gestion de la sécurité, nous luttons contre l'insécurité à travers des actions, et notamment les sensibilisations des populations, mais également les activités civilo-militaires que nous faisons avec les forces de défense et de sécurité, conjointement avec les populations, pour vraiment rétablir la confiance entre les deux acteurs, afin de lutter notamment contre l'insécurité. Voilà un peu ce que nous faisons au REPAD. Et nous organisons également des débats télévisés et radio pour amener les populations à comprendre l'enjeu de la sécurité et leur partition dans vraiment le retour de la paix dans ces zones de conflit.
D'accord. Oui. Comment se portent les droits des populations dans les zones de conflit?
Oui, les droits de la population, et je commencerai d'abord par un chiffre du PEDES, et le PEDES 2007-2021 qui indique le degré du respect des droits humains au Niger à 31,50%. Vu ce chiffre, vous allez comprendre que le respect des droits humains dans ces zones de conflit est mis à mal, et notamment par les groupes armés qui sont les acteurs qui sèment la terreur dans nos populations. Mais c'est également, ces droits sont mis à mal par les forces de défense et de sécurité. Et malheureusement, on va le dire, et beaucoup d'allégations sont faites à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité. Vous vous rappelez bien la tuerie massive à Inates, des allégations faites à l'encontre de nos FDS, et dont le REPARD et la Commission nationale des droits humains ont fait une mission d'investigation pour vraiment élucider un peu la question de cette violation des droits humains massive. Donc là, on a compris à travers cette mission d'investigation que nos FDS sont parfois responsables de certaines exactions, peut-être par, je dirais, des manques de coordination dans la réponse à l'insécurité.
D'accord. Monsieur Arimi, comment s'explique la question de la sécurité et celle des droits humains au Sahel, notamment au Niger?
C'est comme il vient de le dire, c'est pourquoi on n'aime pas aussi l'insécurité, justement. Parce que des personnes, souvent des civils, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui ne sont pas des acteurs, en fait, on va dire, se trouvent dans un cadre de violation de droits. C'est-à-dire, même la violation de droits, en tout cas, les gens perdent leurs droits parce que les populations sont obligées de se déplacer. Les populations n'ont plus droit à un certain nombre de droits, c'est-à-dire ils ne peuvent plus aller et venir comme ils veulent, ils ne peuvent plus dormir tranquille. C'est déjà ça. Donc, conflit rime nécessairement avec absence de droits. Mm-hmm. Et maintenant, quand il y a violation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tenté à ce droit-là. Et c'est celui qui est le plus fort. Généralement, c'est les forces de défense et de sécurité qui sont pointées. Mais surtout, les groupes armés aussi. Surtout en 2015, 2016, 2017, c'était très grave, notamment à Difa, où des villages sont brûlés, des écoles sont fermées, des filles et des femmes sont enlevées de force, mariées, parfois, comme on dit, entre guillemets, vendues. Donc voilà, et ça se poursuit malheureusement. Le cas des 39 femmes et enfants de Difa qui ont été enlevés, qui ne sont jamais, plus jamais de retour. Si on doit faire le point de ces incursions et des populations qui sont vraiment en perte, qui sont au désarroi et qui n'ont plus droit à quoi que ce soit avant de venir être accueillis et reprendre avec le droit. En réalité, ces conflits-là riment vraiment avec l'absence de droit. C'est le cas de la région de Maradi, où une nuit, un village peut être attaqué et tous les biens enlevés, des femmes enlevées, des enfants toujours enlevés. Et donc, vraiment, c'est cela aussi, l'absence de droit. Maintenant, les forces de défense et de sécurité sont pointées parce qu'ils sont du côté légal. C'est des forces loyalistes. Ce n'est pas difficile d'établir, même quand ils ne le font pas exprès, quand ils font quelque chose, c'est tout de suite visible et tout. Mais l'insécurité, vraiment, c'est là où on n'a pas... c'est grave, ça rime toujours avec absence de droit. Voilà.
D'accord. Quelles sont les causes profondes, justement, de cette violence qui sévit au Niger et comment les traiter, notamment?
Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de conflits qui sévissent au Niger. Au sud-est, on sait que c'est avec notamment le groupe armé Boko Haram qui attaque et qui, à ce début, a fait montre d'une violence extraordinaire. On sait que par rapport à ça, il y a un peu de recul. C'est le même comportement à l'ouest du pays, notamment dans la région de Tillabéri et un peu à Tawa aussi. Et c'est un peu différent à Maradi. Donc, est-ce que on peut dire que voilà les raisons exactement qui poussent? Non, on sait que c'est généralement des groupes de jeunes, n'est-ce pas? Les gens, et on a une population relativement jeune. Beaucoup, en fait, on a beaucoup attiré l'attention, notamment de nos États, que c'est des populations au Sahel en général, nos populations sont très jeunes. Au Niger, on parle de 60%, autour de 60% de moins de 15 ans, 65% au moins de moins de 25 ans. Et donc, si cette population n'est pas encadrée, généralement, c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui, à la recherche des solutions, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de leur donner raison, mais ce qui peut pousser quelqu'un à aller prendre les armes contre son propre pays, c'est le manque de travail, c'est la frustration, c'est l'injustice, et ça. Maintenant, on ne dit pas que les gens ont raison d'aller le faire, parce que souvent, ce n'est pas des ressortissants d'un même pays qui le font. Et donc, vraiment, les gens, comme il y a la circulation des armes, qui sont les armes qui sont disponibles. À tort ou à raison, on pointe la dislocation, je dirais, entre guillemets, de la Libye. Les gens disent que, bon, depuis cette période-là, les armes sont faciles à avoir et des armes vraiment d'une certaine qualité sont venues dans le Sahel. Et voilà ce que ça a causé. Ça a commencé avec le Mali, avec le sud-est nigérien. Puis ça y est en train vraiment de se propager dans tout le Sahel et même au-delà dans les pays de la Golfe de Guinée. Quoi. Donc de Golfe de Guinée. Voilà ce qu'on peut dire, mais les raisons sont multiples. Écoutez, là, on a essayé depuis le début la solution militaire. Je ne pense pas que ça peut suffire. Il faut se parler. Qu'on le veuille ou non, malheureusement, en majorité, les jeunes qui sont utilisés pour faire ce sale boulot, c'est vraiment nos enfants, c'est nos frères, c'est les enfants de la sous-région. Et donc, il faut créer les conditions de les démobiliser. Et il faut vraiment faire la promotion de la jeunesse, faire la promotion de ce qui les intéresse, notamment le travail, n'est-ce pas? Il faut investir dans l'éducation, parce que quand il y a pas, c'est facile de faire dérailler, de faire dérouter quelqu'un qui n'a pas d'instruction aussi. Donc c'est plein de, c'est très profond et d'accord, c'est déjà là. Et donc j'espère que nos dirigeants ne vont pas perdre de vue le fait que oui, la solution militaire pour protéger immédiatement, mais à la longue, il faut vraiment beaucoup de solutions plutôt soft quoi.
D'accord. Monsieur Hamadou, selon vous, comment traiter les causes de ces violences?
Oui, comme il a dit, les causes de ces violences, comment les traiter? C'est d'abord lutter contre les inégalités sociales. Et la bonne gouvernance en première ligne. Il s'agit tout simplement de faire respecter la loi dans toute sa rigueur. Pas de politique de l'Autriche, pas de distinction entre un partisan et un autre qui n'est pas mon partisan. Si la personne s'émet à violer ou à commettre des infractions, il n'a qu'à subir la loi dans toute sa rigueur. Donc, il ne faut pas créer une certaine frustration au sein de la population. En luttant contre les inégalités sociales, nous avons devant nous des citoyens modèles et qui seront en même à contribuer à l'épanouissement de l'État. Parce que quand l'État se donne les moyens de mettre ses citoyens dans les conditions nécessaires, et dans les conditions viables, ce citoyen a le devoir également de respecter et de faire respecter les lois de la République. C'est comme cela et on va pouvoir mettre fin à ces causes de l'insécurité ou bien à ces causes des violences que nous constatons et ça et là dans nos contrées. Parce que les sentiments de la population aujourd'hui, c'est un sentiment d'abandon. Et à un certain moment, certains endroits sont quasiment vides de représentation de l'État.
Oui, justement.
Donc, cela a vraiment créé un sentiment d'abandon et ces populations qui ne sont pas assistées par l'État ou bien qui n'ont jamais vu de représentants de l'État sont une main-d'œuvre facile pour ces groupes terroristes. Donc, l'État doit être présent partout où besoin sera.
Oui, donc, vous avez un peu soulevé la question prochaine. Concernant la crise sécuritaire et son impact sur les droits humains, il faut, comme vous venez tout de suite de le dire un tout petit peu, il faut noter que les cartes sécuritaires qui leur sont consacrées réduisent les zones de sécurité. Donc, pour faire face à cette situation, que pensez-vous qui doit être fait?
Oui, c'est comme j'ai commencé à le dire, c'est vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir être partout dans le pays. Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, il y a des portions du territoire où l'État est quasiment absent. Ces populations ont été déguerpies de leur village. Je pense aux populations de Bossé, Bangou et autres, qui nous avons eu même à faire des interventions et dans ce village. Et aujourd'hui, ces investissements que nous avons faits sont laissés au compte de ces groupes terroristes. Nous avons rénové le dispensaire que dispose cette population qui est dans la zone rouge. Nous avons fait des jardins communautaires à ces populations, mais aujourd'hui, à cause de l'insécurité, ils ont tout abandonné. Soit ils sont à Torodi, soit d'autres sont ici à Niamey. Et là où ils sont aujourd'hui, ils sont dans une extrême précarité. D'où la nécessité et l'urgence pour l'État d'intervenir avec l'appui de ses partenaires pour faire face à ces besoins dans lesquels ces populations se trouvent.
Monsieur Arimi, vous êtes à Alternative Espace Citoyen, donc défenseur aussi des droits humains. Que pensez-vous qui doit être fait concernant ces zones de sécurité réduites?
Vous savez, au début du conflit, les îles du lac Tchad particulièrement ont été carrément vidées. Et l'État qui a fait déguerpir la population pour que l'armée intervienne. Et ce qui fait que aujourd'hui ces îles sont vraiment l'apanage des groupes armés. Il y a une zone, je dirais vraiment carrément vide des autorités du Nigeria et qui est malheureusement très frontalière avec le Niger. C'est la zone entre Damasak et Malfatri, n'est-ce pas, long de 100-150 km, où il n'y a aucun autre village encore. Donc, dès qu'on traverse la Komadougou, c'est vide d'autorité vraiment légale.
D'accord. Et ça, voilà. Que faire en général dans toutes les régions qui sont concernées par ces conflits?
Écoutez, il n'y a que les FDS, les forces de défense de sécurité, qui peuvent vraiment d'abord occupé avant de faire revenir la population. C'est une bonne idée de faire venir la population parce que tant que la zone n'est pas habitée, bon, ça donne la nature à horreur du vide et ceux qui sont intéressés vont venir l'occuper. Il n'est pas question aussi de jeter la population en pâture, faire revenir s'il n'y a pas de protection. Là, l'État du Niger a essayé quelque chose dans la région de Difa, c'est notamment de faire venir, de recruter des enfants du terroir, et donc c'est fait pour certaines localités et le résultat semble-t-il est probant. Est-ce que c'est ça qu'il faut poursuivre? Mais c'est d'abord à la force nationale, les FAN particulièrement, bon, d'occuper ces espaces-là et de faire venir la population. C'est toujours bon quand la population, parce que c'est une double ou triple charge quand la population est en déplacement. D'abord leur zone, donc ils ne peuvent plus exploiter leurs champs, ils ne peuvent plus exploiter leurs jardins, ils ne peuvent plus pratiquer leurs activités traditionnelles, la pêche, l'agriculture, l'élevage. Ça c'est un. Deux, ils constituent aussi une charge et pour l'État et pour la population locale parce que le peu de ressources dans les zones contiguës au village, aux grandes villes qu'il faut exploiter et avec une surcharge de population. Et les enfants n'iront pas à l'école. Et or, quand les gens sont chez eux, leurs écoles sont là, leurs infrastructures sanitaires sont là. Donc c'est plein, plein de choses à faire dans ces zones. Mais vraiment, il faut d'abord s'assurer de la sécurité dans ces villages avant de faire revenir les populations.
D'accord. Je continue toujours avec vous, Monsieur Arimi. Vous l'avez évoqué au tout début, les attaques de plus en plus meurtrières contre les positions des forces armées nigériennes FAN. En guise d'exemple, celle d'Inates, en décembre 2019 de Shinagoder en janvier 2020 et celle contre le camp de la garde nationale nigérienne à Ayoru en mars 2020. Quelles sont les conséquences de ces conflits dans les zones sur le plan social?
Moi, à mon sens, c'est vraiment le plus grave, c'est que la population est réduite à ne rien faire ou à se retrouver au sein, autour des grandes villes, n'est-ce pas, ou dans les grandes villes. Ils deviennent du jour au lendemain, parfois dans leur propre pays, des cas sociaux, tout simplement. Et pour avoir vu des personnes parfois proches vraiment dans cette situation-là, je sais que ça enlève beaucoup de choses à l'être humain que de se retrouver dans une situation de déplacé ou de réfugié. Parce que des gens fiers qui n'ont jamais tendu la main et qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation de nécessité, il faut qu'on vienne vous partager les graines, il faut qu'on vienne vous donner la simple moustiquaire. Bon, c'est compliqué, sincèrement. Et c'est à cela qu'on assiste. Malheureusement, quand on est déplacé ou réfugié, on a même très peu de possibilités d'exercer d'activités socio-économiques pour pouvoir se prendre en charge. Et donc, c'est vraiment des cas sociaux concrets, c'est des nécessités concrètes. Et ce n'est pas toujours que l'État a les moyens de faire face, malheureusement. Et même les ONG internationales et locales, ce n'est pas toujours qu'ils ont les moyens de faire face à ces besoins. D'accord. Et donc, vraiment, l'insécurité, ce que ça crée, c'est vraiment, vraiment contre l'équilibre social en réalité.
D'accord. Voilà. Monsieur Hamadou, à quel moment intervenez-vous pour garantir et promouvoir les droits humains?
C'est au moment où nous sentons le besoin dans ces populations. Et par exemple, les populations qui vivent dans ces zones d'insécurité, et comme il l'avait soulevé, sont dispensées de toute activité humaine. Parce que par peur de se déplacer, ils n'arrivent même pas à fournir le maximum d'efforts pour travailler et subvenir à leurs besoins. Donc là, la solution, c'est d'aller vers ces populations, les apporter l'appui nécessaire à travers des actions, de développement. Et, par exemple, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, c'est de couvrir le besoin d'abord alimentaire de ces populations, et également de couvrir le besoin en matière de santé de ces populations, mais également le besoin en matière d'éducation. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, que pour la seule région de Tillabéri, plus de 600 écoles sont fermées. Donc ces enfants qui ne vont plus à l'école, il faut occuper ces enfants. Ou ceux-là qui sont dans les grandes villes aujourd'hui, par exemple à Torodi, et sont dans une situation d'assistance sociale, et que l'État, avec ses partenaires, doit faire le maximum pour que ces enfants soient accompagnés dans leur éducation. Puis ces enfants, n'étant plus chez eux, n'étant plus avec leurs parents, sont au niveau de leurs tuteurs. Et ces tuteurs ne sont pas dans la mesure d'accompagner ces enfants dans leur scolarité.
Mais c'est quoi une violation massive des droits humains?
Bon, une violation massive des droits humains s'entend par des tueries d'abord d'une très grande importance. Que ce soit la tuerie d'une seule personne ou bien la tuerie en masse. Ça, c'est une violation massive. Parce que tant que la vie se voit mise à mal, tant que l'atteinte à la vie est faite, on parle forcément de violation massive. À cela, aux violations de la vie, s'ajoutent également les viols. Et nous avons les viols des femmes, par exemple, celles commises dans la localité de Théra. Et nous avons également les violations commises par les forces étrangères, par exemple à Théra. Et nous avons également des enlèvements faits par les groupes terroristes. Nous avons également malheureusement des enlèvements faits par nos FDS qui restent sans suite. Donc tout cela et rentre dans le cadre de violations massives des droits de l'homme.
Les gangs s'en prennent également aux chefs traditionnels et religieux qui ont fait l'objet d'enlèvements et d'assassinats ciblés depuis mi-2019. Quel impact ces tueries peuvent avoir dans les communautés et quelle est votre intervention afin que cela cesse, Monsieur Harimi?
Écoutez, les chefs, c'est des symboles. C'est l'autorité traditionnelle autour desquelles vraiment les populations se retrouvent, n'est-ce pas? Depuis des générations, depuis parfois des siècles, n'est-ce pas? Des membres de des familles de ces chefs-là ont dirigé, souvent avec un savoir-faire, ces populations. S'en prendre à eux, c'est vraiment s'en prendre au pouvoir, s'en prendre vraiment à toute la communauté. Et du point de vue symbolique, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, individuellement pris, souvent, ces gangs reprochent aussi une collaboration avec les forces loyalistes, n'est-ce pas, à ces chefs-là, ou une certaine résistance. Ce qui est normal quand vous avez à gérer une population, quand vous êtes le représentant d'une population, vous ne pouvez que défendre ses intérêts. Donc malheureusement, quand ils ne collaborent pas avec les gangs, les gangs s'en prennent à eux. Et malheureusement aussi, c'est des gens qui sont pratiquement sans défense, n'est-ce pas? Et la population est sur le point de quitter. Et déjà, tout le monde a peur. Et donc, c'est facile de venir s'en prendre à un chef, de l'enlever, de le tuer. Et voilà ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un tournant au plan social important qui mérite d'être analysé vraiment par des chercheurs, par des scientifiques. Pourquoi?
Une autre question. Que pensez-vous du travail des FDS?
Écoutez, on est dans une zone où on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Burkina Faso à côté, au Nigeria. Il faut dire que de tout temps, nos forces de défense et de sécurité ont été parmi les meilleures, n'est-ce pas? Et là, tant bien que mal, on peut dire qu'ils ont préservé l'intégrité de notre territoire, ce qui est vraiment de leur ressort. C'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens encore qu'il faut. Et donc, il faut bien gérer les ressources du pays pour qu'eux n'en manquent pas, parce qu'ils sacrifient leur vie. Or, ils sont comme tout le monde. Ils ont des enfants, ils ont des parents, c'est nos parents tous. Et donc, vraiment, ils sont à saluer. Il faut reconnaître que son kaokalo, quoi, comme on dit en Hausa, vraiment.
Monsieur Ahmadou, avez-vous rencontré des difficultés dans l'exercice de vos fonctions sur le terrain?
Pour faire respecter les droits humains sur le terrain, et probablement les difficultés, nous avons beaucoup rencontré ces difficultés, et notamment et parfois le manque de collaboration des populations. Et ces populations parfois nous disent que le fait même de rester avec des personnes, des humanitaires, ou bien des FDS, d'être en contact avec ces personnes, les met vraiment dans le champ de vision des groupes armés terroristes.
Pourquoi pense-t-il cela?
C'est le cas. Quand une personne qui est dans une zone d'insécurité est en contact avec ces personnes, et le soir, après le retour de ces personnes, il sera menacé. Cette personne serait menacée comme quoi je t'ai vu en contact avec telle personne, de qui s'agit-il? Donc là, c'est la peur qui amène ces personnes à ne pas collaborer dans la recherche des solutions. Ils ont peur des représailles de ces personnes. Ces gangs sont avec eux. C'est leurs propres enfants. Et parfois, ce sont des personnes qui vivent autour d'eux. Donc ils les contrôlent à tout bout de champ. Donc, ils contrôlent leurs actions, ils contrôlent leur communication avec les autres personnes. Et donc,
comment vous faites quand même pour arriver à leur faire comprendre la situation?
Oui, la situation, nous le faisons à travers notamment la collaboration que nous faisons avec les collectivités territoriales, notamment les conseillers et également les chefs communautaires. À travers ces personnes, nous communiquons avec les populations. Parce que pour pouvoir être en contact avec ces personnes, nous prenons attache avec elles au niveau des collectivités territoriales, mais également au niveau des chefs religieux ou bien des chefs communautaires. Et ça peut réduire la vision des Tsiganes sur ces personnes. Parce que quand la personne part chez le chef, et même si on le voit, on dit qu'il est parti régler, peut-être régler un problème social. Ou bien s'il part dans une collectivité, c'est pour régler ses questions, ses besoins fondamentaux. Donc là, ça va être le point de contact avec ces populations et les amener à comprendre l'importance de fournir des informations et pour lutter contre le terrorisme.
D'accord. Quelle analyse faites-vous des relations entre forces de défense et de sécurité et les populations dans un contexte d'insécurité?
Oui, l'analyse faite, c'est que dans un contexte d'insécurité, il y a une distanciation entre ces deux acteurs. Les FDS, parfois, se résignent à collaborer avec ces populations parce que tout simplement, ces FDS pensent que ce sont ces mêmes populations qui viennent parfois les attaquer ou bien qui fournissent des informations à ces groupes terroristes. Et de l'autre côté, les populations, elles également, ne veulent pas collaborer, comme je l'avais dit, et ils vont penser que les FDS ne sont pas permanemment là pour les protéger.
Et comment éviter cette distanciation?
Oui, c'est toujours de continuer cette sensibilisation et la continuer jusqu'à ce que les populations comprennent et vraiment s'amènent à collaborer. Nous le faisons à travers des activités civilo-militaires. Nous organisons des débats à travers les observatoires de vie citoyenne que nous avons mis en place dans 8 communes des saisons de conflit. Nous amenons, parce que ces observatoires sont représentatifs, nous avons les FDS dans ces observatoires, des élus locaux, nous avons également des chefs traditionnels dans ces observatoires qui vont essayer de sensibiliser la population et les amener à comprendre leur partition dans la lutte contre l'insécurité.
D'accord. Monsieur Harimi, à la date d'aujourd'hui, comment trouvez-vous la situation des droits humains? Est-ce qu'il y a des avancées et quelles sont les limites?
Non, c'est sûr qu'il y a des avancées. Vous savez, c'était nouveau en 2015 encore, 2016 on peut considérer, mais au fur et à mesure, justement grâce aux actions des associations, des ONG internationales, grâce aux actions de l'État aussi, on a appris aussi, tout le monde en a appris, les FDS ont appris, la population aussi a appris, et même nous, les acteurs, la société civile aussi, avons appris non seulement à analyser, pas comme avant, mais aussi de nous outiller pour vraiment mieux sensibiliser la population, mieux sensibiliser les FDS et même les autres représentants de l'État. Avant, les exactions, pratiquement, c'était tous les jours. Tous ceux qui violaient les droits ne les faisaient pas, certainement, de gaieté de cœur. Mais ne pas savoir que dans un conflit, il y a toujours les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui se tirent dessus, entre guillemets, les FDS, les GAN, mais aussi il y a les civils qui, eux, ne font pas partie du conflit et qui s'en prennent aux civils, n'est-ce pas, pour quelque raison que ce soit du côté des FDS ou des GAN. Bon, contribue à la violation des droits humains. Et donc, aujourd'hui, les gens ont appris. Et malheureusement, c'est aussi ça les leçons à tirer de ces conflits-là. En matière de respect des droits, on a appris. C'est sûr que ça continue, les violations, ça va encore continuer, mais ça sera moindre certainement au fur et à mesure, tant que les défenseurs des droits humains sont là, ils veillent. Et je crois que ça ira de mieux en mieux.
Est-ce qu'il y a des stratégies mises en œuvre pour la protection de ces droits humains?
Ah si, il faut saluer les organisations de la société civile qui sont très actives et qui veillent. Les gens ne dorment pas, c'est-à-dire de la même manière que les GAN ont leur informateur, les forces de défense et de sécurité ont leur informateur. Aussi, souvent, les organisations de la société civile, il ne faut pas se les cacher, ont aussi leurs points focaux qui leur rendent au jour le jour des situations qui arrivent dans les villages, les moindres villages les plus reculés de ce pays. C'est important. Et c'est pourquoi, quand il y a des dénonciations, souvent, c'est preuve à l'appui. Donc, Vraiment, chacun fait son travail et je crois que ce respect des droits qui va de mieux en mieux est l'œuvre vraiment des organisations de protection des droits humains, justement.
D'accord. La même question pour vous, Monsieur Hamadou. Des stratégies mises en œuvre pour la protection des droits humains.
Les stratégies se font en collaboration avec l'État parce que les déplacements, parfois, il faut les coordonner, non seulement à travers des escortes, il faut également associer ces communautés pour faire face à l'insécurité. Parce que avant tout, ce sont ces communautés qui sont confrontées et ce sont ces communautés qui savent réellement qui sont ces personnes qui les menacent à tout bout de champ. Et comme je l'avais annoncé, parfois il se trouverait que ce sont ces mêmes personnes qui sont infiltrées dans ces villages et qui donnent des informations à ces groupes terroristes ou bien font partie même de ces groupes terroristes. Donc la stratégie voudrait à ce qu'on associe les communautés dans la recherche des solutions. Et la solution ne va pas venir d'ailleurs. Comme on le pensait que les forces étrangères sont là pour protéger nos populations, ce n'est nullement pas le cas. Il faut donner vraiment le tonus à nos forces de défense et de sécurité, leur fournir les moyens nécessaires pour faire face à l'insécurité. Nos forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit M. Harry, ce sont des forces qui sont incontournables et qui font un travail sérieux dans leur intervention. Donc, les doter des moyens serait la meilleure solution. L'autre stratégie, c'est également la lutte contre les inégalités sociales, comme on l'avait dit. C'est de vraiment donner à la population, à satisfaire à ces populations leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est le besoin primordial. Si c'est fait, on peut songer à des stratégies. Parce que si la personne est exposée, si la personne ne se sent pas attaché à un État, il serait à même d'être facile à être enrôlé et par ces groupes terroristes.
D'accord. Comment faire pour protéger et promouvoir les droits humains pour contribuer à la stabilisation des communes en zone d'insécurité? Pour favoriser surtout la confiance entre les FDS et les populations.
Oui, pour favoriser la confiance entre les FDS et les populations, c'est d'organiser des activités civilo-militaires, des matchs de cohésion, des débats et des forums qui vont associer ces deux acteurs et leur permettre d'échanger entre eux et trouver des solutions pour faire face à l'insécurité et encore créer la confiance entre ces populations et ces FDS. Il faut peut-être dégager et cet esprit que nous avons de dire que nos FDS parfois ne prennent pas en compte, ne font pas de distinction parfois entre les combattants et les civils. Et aussi, de l'autre côté, la peur de représailles de ces populations, ils font l'enlever par des actions de sensibilisation et la mise en confiance de ces populations. Leur assurer une confiance qui va leur permettre de collaborer avec les FDS. C'est en cela qu'on peut aboutir à la lutte contre l'insécurité.
Et selon vous, M. Harimi, comment promouvoir, protéger les droits humains et consolider la confiance entre FDS et population?
Écoutez, ce qu'il y a lieu, c'est que il faut vraiment que les FDS professionnalisent davantage les renseignements. Parce que c'est comme il a eu à le dire, une collaboration ouverte entre les FDS et la population, parce que normalement la population n'est pas partie prenante au conflit. Ça l'expose tout simplement aux représailles de l'une ou de l'autre partie. Parce que si jamais les GAN, dont des membres sont souvent au sein de la population, se rendent compte que quelqu'un collabore au sein de la population pour donner des renseignements aux forces de défense et de sécurité, pour lui, ça n'est fini. Et donc, vraiment, c'est d'épargner au maximum la population, d'avoir un renseignement vraiment professionnel qui puisse prendre en compte la situation, c'est de s'adapter. On sait que ce n'est pas une guerre ordinaire, mais il faut aussi créer les conditions, je crois que de s'adapter, d'avoir les renseignements par d'autres moyens peut-être, et d'épargner la population parce que qui peut être exposée et des membres peuvent être obligés de choisir ou d'être avec les GAN ou d'être avec les FDS. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment au niveau des renseignements qu'il faut faire un travail pour épargner la population, pour qu'elle ne soit pas partie prenante au conflit. Et comme ça, au fur et à mesure, certainement, ça pourrait amener à savoir qui est qui au sein de cette population-là, quoi.
Quel appel lancez-vous en général sur tout ce qu'on vient de se dire, M. Harimi?
Écoute, c'est que ces conflits-là finissent. N'est-ce pas? Nous n'en avons pas besoin. Les ennemis de nos pays, les ennemis de nos peuples ne sont pas à notre sein, ils sont ailleurs. On a des territoires assez riches, n'est-ce pas, qui peuvent se prendre entièrement en charge et où chacun peut vivre en toute liberté. Et vraiment, je pense que et les forces de défense de sécurité, bon, eux ne font que défendre la population, mais nos frères et sœurs qui ont pris les armes, n'est-ce pas, qu'ils aient confiance à cette population-là, que les gens sachent qu'il y a d'autres moyens encore de pousser nos dirigeants, n'est-ce pas, à mieux gérer, à respecter les droits humains, à respecter l'équité, l'égalité entre vraiment les fils d'un même pays. Parce que c'est comme il l'a dit, qu'est-ce qui pousse généralement les gens à aller vraiment prendre les armes? C'est l'insécurité, c'est l'injustice, c'est l'envie de protection, c'est vraiment, en plus, il y a un minimum qui n'est pas garanti. Les gens n'ont pas droit à la santé, à l'instruction, à ceci, à cela. Et donc, vraiment, il y a des moyens encore pour pousser nos populations, nos dirigeants à respecter ces droits-là, que de se tirer tout le temps là-dessus.
D'accord. Monsieur Hamadou, oui. Quel appel avez-vous à lancer?
Oui, mon appel, c'est vraiment que le Niger puisse redevenir le Niger d'antan, où la personne pourrait prendre sa route de Tiara habilement, sans inquiétude. Ça, c'est possible. On peut revenir dans le Niger d'antan. L'État doit vraiment se donner les moyens de protéger sa population. Parce que le Niger d'antan, c'était quoi? C'est vraiment la sécurité humaine d'abord et la sécurité de l'État. Parce que quand la personne humaine se sent en sécurité, et l'État tout entier est en sécurité. Donc, c'est cela. Il faut garantir à la personne humaine toute sa sécurité. Donc, c'est cela. Et l'appel, c'est aussi à l'endroit des organismes internationaux. Dans leur intervention, ils n'ont qu'à tenir compte de nos besoins réels, nos besoins qui nous est chers. Donc, c'est satisfaire à ces besoins. Pas venir avec un calendrier qu'on va imposer à une organisation pour lui dire voilà ton champ d'action et ça se limite à ça. Donc il faut tenir compte des réalités vraiment locales. C'est à cela qu'on peut venir à la satisfaction des besoins fondamentaux mais également à la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.
D'accord. Nombreux sont les civils au Niger qui vivent quotidiennement sous menaces sécuritaires. Selon nos invités, il est l'heure de passer à la bonne gouvernance, à l'action pour mieux prendre en compte leurs droits, leur présence, leurs perspectives et répondre à leurs besoins. Ils pensent aussi que les causes profondes de la violence multiforme qui sévit au Niger doivent être traitées de manière inclusive. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions en compagnie de M. Harimi Abba, journaliste à Alternative Espace Citoyen, en compagnie de M. Hamadou Ali Boubaka, responsable département démocratie et bonne gouvernance dans le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. Je suis Rafika Attahera à la présentation, à la technique Amina Hassan et à la régie vidéo Mustapha Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour notre thème du forum du studio Kalangou. Excellente soirée à tous. Au revoir.